Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'émission Cinébrunch, votre émission de cinéma favorite. Mon nom est Jim Boulay et devant moi, de l'autre côté du miroir, pauvres âmes chagrines, comme le printemps prisonnier et les érables silencieux, Mélina et Louis.
Et Calvaire.
Bonjour. Entendant le glas de l'hiver et attendant la chaude délivrance, la fin de cette interminable prose, mais il est trop tard. La nature a parlé et contrôlera nos actions comme je contrôle les vôtres avec cette console de radiodiffusion.
On a Jim Nelligan aujourd'hui à l'animation.
Voilà, tu t'es surpassé, Jim, aujourd'hui. Félicitations.
Merci. Donc, Louis, t'es allé voir Thor.
Tu n'as pas tort.
Balloum. Oh boy.
Hey, vous êtes trop en tort, Pinoche, ce matin, guys.
Ça arrête plus. Donc, tort.
Tort, que... c'était excellent. On s'en parle tout à l'heure, je vous dis ça quand même. Mais les blonds avec des gros marteaux, moi, j'aime bien ça.
Bon, c'est bon à savoir. Mélina, toi, t'es allé voir un film de Noël déjà?
Oui, déjà un film de Noël, Bad Moms Christmas. En fait, c'est plutôt. Je me demandais pourquoi Hollywood continue de financer ce genre de film. Donc, je suis allé voir ça pour vous.
Ah ben ça, écoute, ça promet. On en saura donc plus dans quelques minutes. Et aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Et dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de films de guerre qui constituent quand même un gros morceau de l'histoire du cinéma. Chacun d'entre nous vous présenteront également leurs trois meilleurs films de guerre. Oui, même Mélina. Donc, sortez vos coquelicots, voici Cinébrunch. Louis, t'as pris un Prozac pour toffer jusqu'au dernier Marvel. Il est arrivé. Est-ce que t'aurais mieux fait de pas aller voir Thor ou si j'ai tort?
Je refuse de commenter sur les jeux de mots de l'animation.
T'as pas tort, Louis.
Je vous haïs toutes. C'est quoi? Thor, on est rendu à la phase 3 de l'univers Marvel. On est rendu au troisième film de Thor après Thor. Et Thor, le monde noir. Je m'excuse. C'est vraiment le titre du premier film.
Oui.
Thor se ramasse emprisonné sur Sakaar, pas inventé, une étrange planète dirigée par le grand maître, The Grandmaster. Pour s'en sortir, il doit gagner un combat de gladiateur contre nul autre que Hulk. Mais avant de vous en parler plus, on va juste aller entendre la bande-annonce.
Il s'est passé tant de choses depuis notre dernière rencontre. J'ai perdu mon marteau hier, c'est tout récent, je suis encore un peu énervé. Ensuite, je suis parti en quête de moi-même. Et c'est toi que j'ai trouvé.
Où est-ce qu'on est?
Ouais, où est-ce qu'on est, Louis?
Ben c'est ça. En fait, là, on était... ça commence bizarre, ce film-là, parce que ça commence avec Thor emprisonné dans une espèce de pit drôle par un espèce de démon pas expliqué qui s'appelle Sucur. Excusez, il y a beaucoup de gars dans ce film-là.
OK.
De manière inappropriée. Il s'en sort, il tue le gars, mais en même temps, le démon lui apprend que Ragnarok s'en vient... Thor est persuadé qu'il vient d'empêcher le Ragnarok d'arriver.
Ragnarok, c'est bien un jeu multiplayer online.
Hein? Non, ça, on parle de Ragnarok online. Non, on parle de Ragnarok, l'événement de la mythologie nordique où est-ce que l'univers finit, Asgard se fait détruire, puis les trois quarts des dieux se meurent.
Ah.
Fait que là, Thor revient sur Asgard pour dire ça à son père. Puis là, il réalise que, ce que nous, on savait à la fin de Thor 2, Loki a pris la place d'Odin.
Non!
Oui! Odin a été banni sur la Terre par Loki avec un sort qui l'empêche de récupérer ses pouvoirs. Et comme de raison, comme tout bon film qui se veut un peu réflexif... Non, un peu tout bon film...
Réflexif?
Non, c'est ça. On recommence cette phrase-là. Évidemment, comme tout bon film de viking, Odin se retrouve caché en... Norvège.
Évidemment. Thor, la mythologie, bon, c'est ça.
Fait que Thor et Loki le retrouvent avec l'aide du Doctor Strange, joué par Benedict Cumberbatch. On s'attendait à ce qu'il soit plus présent, malheureusement, il est littéralement là pendant une minute.
Ah, carrément? Coûtait trop cher. Coûtait trop cher.
Ben, ou il voulait pas trop mélanger les univers. Fait que bref, Thor commence sur sa carte suite à le retour de sa sœur, Ella, qui est jouée magnifiquement par Cate Blanchett, qui est une espèce de princesse des enfers qui détruit tout. Puis qui participait aux conquêtes d'Odin dans le temps, puisque Thor est en train de découvrir que son père, en fait, était un conquérant qui avait voulu redevenir cute. Hein? Fait que ça, c'est l'histoire. Fait que là, il se ramasse sur une planète bizarre, menée par le grand maître, joué par Jeff Goldblum. Ce qui est drôle de voir ce dude-là avec du rouge à lèvres bleu dans un film de super-héros, mais ça le fait vraiment bien. Il se fait récupérer là-bas par la Valkyrie, jouée par Totoro, Tessa Thompson.
C'est pas du fromage, ça?
Non, non, pas... Je peux-tu faire deux phrases, ça me sort des jeux de mots poche?
Ok, ok, excuse-moi. Mais juste une dernière. Faut... Quand tu te fais bannir par Lucky, t'es pas très chanceux. Ok, c'est fini, c'est bon, tu peux remettre tes écouteurs, je me calme. Je vais fermer mon micro, tiens.
Je suis pas convaincu. Il se fait récupérer par la planète par la Valkyrie qui est jouée à ce moment-là par Tessa Thompson. Tessa Thompson qui est extraordinaire dans ce film-là. Il y a aussi eu un mini-scandale autour du fait qu'elle jouerait ce personnage-là comme étant un personnage queer. Il y a une scène qui aurait été coupée à la salle de montage où est-ce qu'on la voyait effectivement avec son amante sur la planète Sakaar. Mais quand on la trouve sur la planète, Valkyrie est en fait en train de boire comme un trou et de juste se laisser aller le plus possible dans une espèce de spirale autodestructrice parce que toutes ses sœurs Valkyrie ont été tuées dans un assaut contre Ella lors de son bannissement en enfer. Fait que le film part là, puis c'est là que, par l'histoire, c'est là qu'on a, que, dans le fond, Thor, par la force de son caractère et de son charme, réussit à récupérer Hulk, qui est rendu incontrôlable, puis qui n'est pas retourné à Bruce Banner depuis vraiment longtemps. Il réussit à récupérer la Valkyrie. Elle arrête pas de boire, mais elle suit dans les aventures pour venir l'aider. Il retourne sur Asgard, et là... C'est ça, ça s'en vient après ça. Je vais arrêter là parce qu'il y a quand même des divulgateurs que je pourrais sortir à ce point-ci. Fait que je vais dire de ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Ce film-là est excellent. Le dialogue est très intéressant. C'est dirigé par un type qui s'appelle Taika Waititi, qui est un néo-zélandais qui a été connu entre autres pour Hunt for the Wilder People, qui est à ce jour le film néo-zélandais qui a fait le plus d'argent mondialement, ainsi que Vampire en toute intimité, What We Do in the Shadow. Puis ceux qui connaissent ce film-là savent que c'est une espèce de miracle de mockumentary où tout le monde improvise des lignes alors qu'ils sont des espèces de vampires dans un appart dans le monde contemporain, mais pas vraiment, qui est vraiment de toute beauté. Et ça paraît dans ce film-là, parce qu'il y a énormément d'improvisation, puis tu le sens des fois des personnages, mettons, t'as des scènes où t'as juste Hulk puis Thor assis sur le lit en train de jaser, puis faire des jokes un à l'autre, puis tu le sens que c'est juste les deux acteurs qui se sont laissés aller.
Ah, c'est de l'impro, carrément?
Ben, selon les entrevues, là, c'est okay. Qu'il y a énormément d'impro dans les dialogues, il y a toute l'esthétique est très années 80, très over the top, il y a beaucoup de couleurs, c'est très rempli. Je te dirais, le seul point négatif que j'ai trouvé dans ce film-là, c'était la vilaine, la protagoniste, Hella, jouée par Cate Blanchett, qui était sincèrement pas originale. Elle était méchante pour être méchante, elle était ambitieuse pour être ambitieuse, elle était tout ce qu'on reproche au film Marvel pour la création de leur protagoniste. Elle était au-dessus, elle était au-delà de toute réalité. Elle en était presque caricaturale, mais c'était joué d'une telle main de maître par Cate Blanchett que pendant un instant, on y croyait. Les effets spéciaux aussi étaient malades.
OK.
Puis le jeu d'acteur de c'est ça. Tessa Thompson comme Valkyrie, Cate Blanchett en tant que Hela, puis Jeff Goldblum pour le Grandmaster était juste incroyable. Au total, je donne ce film un solide 8.5.
Wow!
Parce que ça reste la formule Marvel. Il aurait pu y avoir un 9. Si on avait eu même un 9.2, s'il avait eu quelque chose d'un peu plus original, mais il le fait tellement bien que je le recommande à tous.
Est-ce que c'est ton meilleur Marvel?
Ah, oh, je suis encore un fan fini de Guardians of the Galaxy volume 1, malgré la mésentente qu'on a pu avoir à ce sujet-là.
Oh mon Dieu, on aura une table ronde là-dessus un séjour.
Éventuellement.
Merci beaucoup, Louis. Bon, Mélina, tu filais girly ou tu filais pas pantoute, mais tu t'es tapé les mères indignes, se tapent Noël, puis c'est même pas le temps des fêtes encore.
Oui, donc pour faire une histoire courte, quand j'ai dit à Louis que j'allais voir ce film-là, il m'a mentionné que en fait c'était la suite d'un premier film qui s'appelait Bad Moms, donc j'ai écouté les deux l'un à la suite de l'autre.
Ça, c'est du courage ou de l'acharnement rendu
là? Un peu des deux.
Un peu des deux. En fait, je dois dire que le premier, je l'ai trouvé franchement bon, là. Il poussait un peu dans l'absurdité, donc j'avais hâte de voir le 2, voir s'il était à la hauteur de mes attentes. Mmh. Donc, Bad Moms 2, c'est scénarisé et réalisé par John Lucas et Scott Moore, qu'on a connu pour... le film de Hangover, en français Le Lendemain de Veille, c'est eux qui l'avaient scénarisé, en fait.
Oui, qui était quand même intéressant comme film, là.
Oui.
Le premier Lendemain de Veille était même, j'oserais le dire, bon.
Oui.
Mais j'ai aussi beaucoup d'amour pour Zach Galifianakis, fait que j'étais un peu...
T'es biaisé, pas, ouais, non, c'est ça.
Mais c'est ça, il passe un peu dans l'absurdité, on retrouve ça aussi dans le 2, mais un peu moins, bref, on y reviendra. Donc, ça met en scène la très charmante Mila Kunis, qu'on connaît depuis son très jeune âge pour son rôle dans That 70s Show. Kristen Bell, qui est dans une nouvelle série sur Netflix, The Good Place, qui est un peu étrange, si vous voulez mon avis. On a aussi Catherine Hahn et les trois mères qui sont jouées par Kristen Berensky, Cheryl Hines et Susan Sarandon. Sans compter que un des pères est joué par Peter Gallagher. C'est qui Peter Gallagher? C'était le père dans The O.C., Sandy Cohen, l'avocat. Donc, avant d'aller plus loin, on va écouter la bande-annonce. Louis, tu veux-tu dire quelque chose?
J'ai zéro référence de ce qui a été nommé, je t'appelle.
On écoute la bande-annonce. Louis, ça va peut-être t'éclairer.
Peut-être.
It's the most wonderful. J'ai toujours adoré Noël. Mais quand on est maman, c'est beaucoup de travail. Entre les courses, les paquets à faire, la cuisine, la décoration...
Tout ça, on ne boit pas l'eau du sapin parce qu'on est des humains.
Oh Seigneur, faites le taire, par pitié.
On n'a souvent pas le temps d'en profiter. Et il n'y a qu'une seule chose.
Oh non.
Qu'est-ce qu'il y a?
Qui peut augmenter votre stress.
Ma mère va débarquer pour Noël.
Tout se passera bien.
C'est la personne qui est la plus critique de la planète. Elle ne changera pas, donc ça va pas bien se passer.
Maman?
Bonjour maman.
Amy. Maman?
Eh bien, Louis, t'étais, hein? Là, t'as vu que t'as manqué quelque chose.
Je suis en train de faire des recherches sur les différentes actrices. Je viens de réaliser que Susan Sarandon, c'était la personnage principale dans The Rocky Horror Picture Show. Ah, je sais que je l'ai au moins vu dans un film.
Bon,
c'est déjà bon.
On voit que t'as une bonne culture, Louis. Je suis contente d'apprendre ça. Donc, ce film-là, en fait, la suite, parce qu'on se souvient, ou si on l'a pas vu, on se souvient pas, dans le premier, Bad Moms, les mères, ils sont amies, la Kunis, ça fait être tannée de devoir essayer d'être une mère parfaite, d'aller aux rencontres de parents de l'école, bref, elle pleure tout le temps, et comme elle boude, puis elle décide d'arrêter avec la perfection d'être une bonne mère, elle se fait amie avec les deux autres filles. Puis, c'est ça, ils décident d'arrêter d'essayer d'être des bonnes mères et de devenir des mauvaises mères. Donc, ils virent un peu tout à l'envers. Donc là, on les retrouve dans Bad Moms 2, alors que Noël approche et qu'elles sont évidemment stressées par Noël, parce que Noël, j'imagine, c'est stressant pour les mères. En fait, c'est stressant, je pense, pour pas mal tout le monde, mais ça, c'est un autre sujet. Puis... Mais elle décide quand même de ne pas faire un Noël, je veux dire, de laisser aller un peu Noël, puis de vraiment plus profiter de la famille, puis genre de se faire plaisir, puis tout ça. Et c'est là que leur mère respective décide de débarquer chez elle pour Noël. Donc, chaque mère va...
Là, ils sont six, là.
Oui, mais ils vivent pas ensemble, je veux dire, chacun dans la maison. Okay. Mais oui, ils sont six. Okay. T'as les trois mères, puis t'as
leur mère.
Les trois mères des mères, c'est ça.
OK.
Fait que c'est ça, les mères, ils débarquent, puis là...
Y a-tu la politique municipale pour le vrai, là-dedans?
Ben, l'association de parents dans les écoles, là, ça a l'air très populaire aux États-Unis, là, en tout cas.
Ah, ça l'est quand même aussi au Canada, faites-en pas.
Okay.
Pour avoir des amis qui commencent à avoir des enfants en âge d'aller à l'école. Ah oui. Ah, puis c'est bien important.
Faut faire
pis,
ça.
Ah oui, puis t'es bien jugé si tu y vas pas.
Bon.
Ou si tu restes pas assez longtemps.
Ben, c'est ça. C'est un des points de ce film-là, en fait. C'est tout le jugement qui va sur les parents. Fait que... Je veux dire, je pense que pour les thèmes que le film aborde, c'est quand même intéressant. On s'entend la perfection, le désir d'être parfait, de réussir partout, alors que tu travailles, t'as une carrière, t'as des enfants, tu as un chien, là, son chien, il a le vertigo, bref. Ça fait beaucoup de choses à réussir. Puis là, si tes enfants, ils réussissent pas bien, mais là, la mère se sent mal. Mais en tout cas, c'est un peu ça le concept. Ça reste que c'est des thèmes, je pense, qui sont d'actualité. Là. On parlait récemment de charge mentale pour la mère. Bon, ça rejoint un peu ça. Donc, les thèmes explorés sont quand même intéressants, tu sais. Mais je vous dirais que le
mais
problème...
Mais le film est plate.
Je dirais qu'il est moins bon, en fait, okay. que le premier.
Mais ils n'ont pas... Parce que d'habitude, les suites de films de ce... Je ne veux pas dénigrer la catégorie, mais un peu. Mais des films de cette catégorie-là sont souvent, justement, on veut que ça se ressemble parce que les gens s'attendent à ce que ça se ressemble. Et ce n'est pas le cas, là, c'est ça?
Mais oui, ça se ressemble, mais je pense qu'il manque certains ingrédients clés qui faisaient que le premier était... considéré comme un bon film. Donc, c'est ça, c'est vraiment les actrices qui sauvent ce film-là. Je vous dirais que, bon, Mila Kunis a déjà démontré qu'elle était une actrice aux multiples facettes depuis qu'on l'a vu dans Le Signe Noir, Black Swan en anglais. Elle nous a démontré qu'elle était capable de jouer dans le super dramatique, dans le comique, comme je disais tantôt, on l'a connue dans Dad 70 Show. Donc, je pense qu'elle vient vraiment sauver le film, là, mais avec Kristen Bell puis Catherine Hahn aussi, là, c'est vraiment ça qui fait en sorte que le film est tolérable, ben, qu'il est acceptable, je veux dire pas tolérable, mais je veux dire acceptable. C'est ce qui fait en sorte que je donnerais quand même un 6 sur 10, je veux dire, ça passe.
Ouh, t'es vraiment plus généreuse que les critiques en ligne.
Oui, je suis plus généreuse que les critiques en ligne, effectivement. J'ai passé quand même un moment relativement divertissant. Puis moi, ce qui m'a fascinée, c'est que la semaine prochaine, il y a le film Daddy's Home 2 qui va sortir. Puis c'est les pères des pères, parce que dans le Daddy's Home 1, c'est les pères, mais là dans le 2, c'est les pères des pères. Donc c'est exactement le même concept qui ont été cherchés. Dans celle-là, c'est les mères des mères, là, ça va être les pères des pères. Donc à voir.
On a hâte d'entendre ta critique pour ce, ce film.
Exactement. Donc voilà, c'était ça pour les productions hollywoodiennes du moment.
Merci Mélina. J'ai été voir pour vous, mais surtout pour moi, le film Les Grands Esprits. C'est un film français écrit et réalisé par Olivier Ayache-Vidal. Ça met en vedette Denis Podalydès. C'est une comédie dramatique et j'ai ri plusieurs fois, mais surtout j'ai souri presque tout le temps, ce qui est une bonne chose. J'ai trouvé ça très agréable à voir. On regarde la bande-annonce.
Je vous rends les dissertations. Alors là, nous descendons dans les bas-fonds de l'intelligence humaine, comme Noémie qui, avec 4 sur 20, a même réussi à faire des progrès. Anna, c'est 20, c'est stupide, 5. En revanche, votre sœur Louise, c'est intelligent, 15. Il y a 10 points d'écart entre vous deux. Comme quoi les mystères de la génétique sont impénétrables.
J'aimerais rapidement m'insurger contre l'usage, la surutilisation de Wagner dans les bandes annonces de films français.
Puis-je poursuivre?
À toi, Jim.
Vous venez donc d'entendre la bande-annonce du film Les Grands Esprits. Et le film raconte en fait l'histoire de François Foucault, qui est interprété par Denis Podalydès, c'est une personne fictive, François Foucault, qui est un enseignant de lettres dans le prestigieux lycée Henri IV à Paris. Son père est un auteur de renom. On le dépeint dès le début comme excessivement sévère et exigeant avec ses élèves, vous l'avez entendu dans la bande-annonce. Malgré ses hauts standards et sa grande réputation, il se trouve malgré lui à être muté dans un collège de la banlieue parisienne. Alors, ce qu'on appelle aussi les cités parisiennes. Contrairement à la ville de Paris, c'est très multiculturel, beaucoup plus pauvre, des conditions assez difficiles pour enseigner le français et la littérature. Alors, le film, je ne dirai pas comment il se rend là, mais le film, c'est d'abord l'adaptation de cet enseignant prestigieux et rigide dans un milieu totalement hostile pour lui. Ses méthodes pédagogiques qui sont absolument aberrantes selon nos standards québécois. C'est aussi un clash culturel et social avec son environnement. C'est parfois aussi un message d'espoir et de réussite, sans tomber dans les gros clichés, parce que ça aurait été facile. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas personne qui s'en va à la Sorbonne à la fin de l'année.
Mais est-ce que l'équipe de foot, elle, réussit à gagner la finale?
Il n'y a pas d'équipe de foot, malheureusement. C'est beaucoup un portrait de l'environnement, là, de cet environnement-là qui est difficile pour l'éducation. On voit des jeunes avec leurs difficultés, leur façon de fonctionner, mais c'est aussi autre chose. C'est d'abord un film où on voit la transformation d'un homme, de François, qui se cherche peut-être, alors que sa vie était rangée et compactée de vérité, il se rend compte que peut-être il y a des émotions. Et il y a un peu d'amour impossible, comme le cinéma français sait si bien l'exploiter. On ne réinvente pas la roue, par contre, avec ce film. Évidemment, on est en terrain connu. C'est un mélange de Bienvenue chez les Ch'tis, de Danny Boone, de Monsieur Lazare, de Philippe Falardeau, et un peu de l'esquive d'Abeladif Kechiche, surtout à ce qui concerne la cité parisienne et l'éducation. Si vous avez aimé ces films-là, allez définitivement voir Les Grands Esprits. Je le recommande totalement. Le film se passe presque exclusivement dans une école. Les enfants sont bons, surtout Abdoulaye Diallo, qui joue le jeune Seydou. Les jeunes dans le film ne sont pas des comédiens professionnels, ils sont dans leur environnement et ils jouent leur vraie vie, autrement dit, quasiment le vrai rôle de leur vie. J'aurais pas détesté qu'on sorte un petit peu dehors, par exemple, c'est pas mal toujours à l'intérieur, mais c'est correct, on se sent pas mal non plus, ça sent le crayon, ça sent le spray. Non. Bon, enfin. Seule critique réellement négative, un peu long à un moment, je dirais qu'1h47, on aurait pu réduire ça à 1h30, mais à part de regarder ma montre une fois, je suis tombé dans l'histoire tout de suite après. Je donne un 8 sur 10 à ce film-là, Les Grands Esprits. C'est très bon, c'est pas lourd, mais pas pantoute. J'ai presque le goût de dire qu'en sortant, j'avais envie d'entamer la lecture de grands livres, mais à la place, j'écris cette chronique, Quel monde cruel, n'est-ce pas?
Ouais, tu te débrouilles quand même pas mal. Tu te débrouilles quand même pas trop bien.
C'est pas si mal. Eh bien, alors non, mais allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Chers collègues, vous savez, on a toujours faim après Cinébrunch. Précisément parce qu'on n'a ni déjeuné ni dîné, évidemment c'est l'heure du brunch, et pour nous permettre de se rendre jusqu'à la deuxième demi-heure, je vous propose de grignoter un peu. Voici trois contenants contenant du pop-corn provenant de trois sources différentes. Oui.
Il y a quatre sources?
Quatre sources différentes, tout à fait. Quatre sources différentes. Dans chacun de ces quatre contenants, devant vous, identifiés avec une lettre A, B, C et D, se trouve le popcorn de la maison du cinéma, le popcorn d'épicerie version 1, le popcorn d'épicerie no name et le popcorn que j'ai préparé pour vous avec amour et passion. Évidemment, aucun de ces popcorns n'ont de beurre pour rendre le défi plus difficile. Oh. Alors, messieurs, dames, on va commencer. Qui veut commencer?
J'aimerais bien commencer, Jim.
Alors, Louis, lance-toi tout de suite. Tu peux déguster chacun des quatre popcorns.
Pour des raisons de logistique que nos auditeurs ne verront pas, je vais commencer par le D. Intéressant.
Le A est bon, en tout cas.
Le C, c'est du no-name.
C'est bon, le popcorn.
Le B est clairement le popcorn de la maison du cinéma.
Louis dit que le popcorn de la maison du cinéma est le B.
Verdict final de Louis.
Verdict final de Louis.
Le A, c'est l'épicerie, mais pas la version no-name. Le B, c'est la popcorn de la maison du cinéma. Le C, c'est le no-name. Et le D, c'est le popcorn de Jim.
Mélina, quel est ton verdict?
Moi, mais c'est sûr que le D, clairement, c'est celui de Jim, parce qu'il est vraiment juste blanc.
Je suis démasqué.
Bon. OK, fait que Jim utilise du blé d'Inde blanc pour faire ses affaires.
Non, c'est parce que ça prend part avec le blanc puis le jaune. Hein. Tu savais que c'est du colorant, le jaune, dans le popcorn?
Non, mais je suis vraiment content de dire que c'est parce que c'est du blé d'Inde blanc.
Le A, c'est clairement... il y a un petit goût de cheddar, ça doit être le sac... comme tu dis, là, le no-name, un petit
non,
peu
moi, cheddaré. Non, moi j'ai dit que c'était l'épicerie, mais pas le no-name.
Mm-hmm.
Tu dis la même chose?
Parce que le C est vraiment juste pas mangeable.
Non, il est bon le A.
Le C.
Ah, moi je pense du A.
Ah oui, le A, il est correct.
C'est tellement drôle. OK. Est-ce que vous entendez surtout?
Oui.
OK. Alors, la vérité est presque exactement ce que vous avez dit.
Non, shit.
Effectivement, le popcorn numéro D est le popcorn blanc et mon popcorn maison. Mm-hmm. Le popcorn C est le popcorn impérial.
Ah oui, c'est la version fancy.
Oui, c'est une... Ben, non, pas du tout. C'est le sac à 3$, là, le gigantesque sac de popcorn.
C'est parce que ce n'est pas du Orville Redenbacher. Ah, le Orville Redenbacher est le seul qui fait le vrai popcorn.
Vous en parlerez, Maxi. Le B est effectivement le popcorn de la maison du cinéma. Et le A est le popcorn no name. Donc, Louis, tu t'es trompé entre les deux popcorn épicerie. Mais sinon, les deux, vous avez découvert le mystérieux popcorn de la maison du cinéma. Je sais pas pourquoi, moi-même, quand j'y goûte, ça goûte le cinéma. Là. Bon, mais très bien. Mais félicitations, vous avez découvert quel était le popcorn de la maison du cinéma sur quatre différentes sortes de popcorn. Félicitations, monsieur.
C'est qu'on aime beaucoup le popcorn à Cinébrunch.
De retour à Cinébrunch, je vous propose de faire un petit historique des films de guerre. J'ai retracé le corpus des films de guerre à travers l'histoire, depuis leur invention jusqu'à peu près la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour comprendre d'où viennent les films de guerre, il faut comprendre pourquoi, à l'origine, ils ont été créés. Et le cinéma, et on entend toujours des gens manger du popcorn en fond, c'est, ça donne une ambiance. Le cinéma est toujours affecté et influencé par le cours de l'histoire, par des réalités sociales, géopolitiques et culturelles. Le film de guerre fait pas exception, et c'est un genre qu'on associe généralement à la propagande depuis que le cinéma existe. D'ailleurs, à ce compte-là, les films de guerre ne datent pas de la semaine passée, parce que le premier film qu'on pourrait dire de guerre et de propagande de ce genre date de 1898. C'est un film évidemment muet, de propagande par la Vitagraph Company, probablement la première compagnie de cinéma aux États-Unis, où on voit un drapeau américain être hissé à la place du drapeau local, probablement hispanique. Ça se passe évidemment durant la guerre hispano-américaine. L'utilisation du cinéma comme propagande durant la guerre a été énormément présenté dès la Première Guerre mondiale, par exemple The Battle Cry of Peace en 1915, qui montre ce qui arriverait si un pays européen belliqueux envahissait New York. Et il y a ensuite eu des films montrant le paquebot anglais Lusitana qui se fait torpiller et couler par un sous-marin U-boat allemand. Même un film d'animation muet en 1918 sur ce sujet. Mais le premier long métrage de propagande de guerre est The Birth of a Nation en 1915 par le réalisateur D.W. Griffiths, une épopée sur la guerre civile américaine et une sorte d'éloge au KKK. C'est un film raciste, anti-noir, adapté du livre The Klansman de Thomas Dixon. J'en ai vu un bout et c'est particulièrement malaisant à voir comme film. C'est disponible entièrement sur YouTube et je vous dis tout de suite, ça passerait pas aujourd'hui si quelqu'un essayait de faire une affaire comme ça, et avec raison. Les Noirs sont des Blancs dont le visage est peint et on sent bien...
Carrément.
Et on sent bien la propagande et la manipulation dans le style. C'est vraiment, tu sais, la petite fille qui pleure alors que les méchants Noirs essaient de traverser la porte et que... Oh mon Dieu, c'est épouvantable, ce film-là. Mais il n'y a pas que des films pro-guerre, il y a aussi beaucoup de propagande anti-guerre. Et le gros paradoxe là-dedans, c'est que D.W. Griffiths a probablement aussi produit le premier long-métrage de propagande pacifiste. Il s'appelle Intolérance, c'est sorti un an plus tard, en 1916, probablement son film le plus ambitieux, cette fois-là parce qu'il traite de quatre histoires ou quatre guerres différentes: l'histoire moderne, la Première Guerre mondiale, on est en plein dedans au moment de faire le film d'ailleurs, l'histoire de Judas en l'an 27 jusqu'au moment de la crucifixion du Christ, la Renaissance française de 1572 et finalement l'histoire babylonienne. Chaque histoire est construite de manière à faire en sorte que le spectateur soit dégoûté par les horreurs de la guerre et la rejette. Deux ans plus tard, en 1918, le réalisateur, toujours D.W. Griffiths, récidive avec Arts of the World, un autre film de propagande, cette fois-là pour encourager les Américains à entrer en guerre dans le conflit européen, donc de la Première Guerre mondiale. C'est assez phénoménal de voir comme ce yo-yo-là. La même année, il y a la compagnie Warner Bros. Qui sort son premier gros hit avec My Four Years in Germany, présenté comme un documentaire. Le film prétend raconter l'expérience de James Gerard, l'ambassadeur américain en Allemagne, témoin d'atrocités commises par les Allemands. Et après l'armistice, les studios européens étant en ruine, c'est Hollywood et les États-Unis qui ont pris le contrôle d'à peu près 80% du cinéma à l'échelle mondiale. Mais en temps de paix, les films de guerre se sont rarifiés. Notons tout de même les quatre chevaliers de l'Apocalypse, The Four Horsemen of the Apocalypse, et le film patriotique America de 1924 de Griffiths sur la Révolution américaine. Vers le milieu des années 20, un nouveau genre de film de guerre apparaît. Les studios MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, qui arrivent sur le marché, lancent The Big Parade, probablement le film muet ayant eu le plus de succès. C'est réalisé par King Vidor, qu'on pourrait considérer comme le Steven Spielberg des années 20. C'est le premier film affichant le point de vue d'un soldat GI, donc ça change vraiment de l'espèce de notion omnisciente qu'on avait auparavant. L'année suivante, en 1926, la MGM, fière de son succès, récidive avec deux autres films de guerre, Tell It to the Marines et Flesh and the Devil. En réponse à la MGM, le réalisateur Raoul Walsh ainsi que les studios Fox produisent le film pacifiste What Price Glory en 1926, qui a été refait d'ailleurs en 1952 par John Ford. On voit les combats, des combats à tranchées très, très, très réalistes dans ce film-là. Ça a été assez percutant. En 1927, c'est au tour de la Paramount de s'y mettre avec Wings, un des premiers films de guerre montrant des combats aériens, en tout cas de ce calibre-là. C'est absolument impressionnant à voir, je vous le jure. Même encore aujourd'hui, ce film-là, c'est fourette. C'est vraiment impressionnant, les combats d'avion.
On réalise à quel point Jim a des goûts antiques dans sa préférence de films.
Je suis un grand classique du cinéma. Mais cela dit...
Non, on dit pas classique, Jim, on dit antiquité. Archaïque. C'est pas la même...
C'est ça, la différence. Les années 30, c'est aussi l'arrivée du cinéma parlant. Hells Angels, rien à voir avec les moteurs. 1930, film de Howard Hughes, est une super production de 3 millions de dollars, ce qui est quand même incroyablement cher pour 1930. C'est aussi ce qui a lancé la carrière de l'actrice et sex-symbole Jean Harlow. Le film All Quiet on the Western Front de 1930 est aussi le premier film anti-guerre de l'ère du cinéma parlé, basé sur un roman de l'auteur allemand Erich Maria Remarque, qui montre la Première Guerre mondiale du point de vue de l'Allemagne. C'est la première fois qu'on voyait ça. Les jeunes soldats allemands qui s'engagent à l'armée pour servir leur patrie, qui se retrouvent ravagés par leur expérience. Des films de guerre qui se raréfient dans les années 30 suite à l'isolationnisme américain. Le réalisateur français Jean Renoir, qui donne deux films de guerre importants. En 1937, La Grande Illusion, où on retrouve des officiers français prisonniers d'une prison allemande. Et La Règle du jeu, The Rule of the Game, la traduction anglaise, de 1939, une fantaisie dramatique qui est l'un des films les plus importants et les plus influents de l'histoire du cinéma. La Règle du jeu de Jean Renoir. 1940, Deuxième Guerre mondiale, on retourne en Amérique avec Foreign Correspondent d'Alfred Hitchcock, 1940 évidemment. La même année, le réalisateur et acteur Charlie Chaplin présente son premier film parlé, parce qu'il avait continué à faire du cinéma muet alors qu'évidemment tout le monde se garochait sur le cinéma parlé. The Great Dictator, une comédie dramatique et une satire politique. Chaplin y joue à la fois le rôle du dictateur fasciste et un barbier juif persécuté.
Ça, juste pour qu'on soit clair, malgré l'âge de ce film-là, il est encore très pertinent aujourd'hui.
Tout à fait.
Je recommande Le Dictateur à tous et à toutes.
Je suis content que tu apprécies un vieux film. De multiples films s'en sont suivis parce que après le bombardement de Pearl Harbor par l'armée japonaise en 1941, le ton d'Hollywood a changé drastiquement et la plupart des films deviennent des œuvres de propagande pour valoriser l'entrée des États-Unis dans la guerre, dépeignant ce geste comme une espèce de noble cause.
Oui, parce qu'on en parle pas souvent, mais il y a quand même le cinéma peut servir à faire passer des messages et à influencer l'histoire et les gens qui regardent ces films-là.
Ils s'en sont rendus compte. Et c'est pour ça que Hollywood a complètement contrôlé le marché du cinéma à ce moment-là. C'est assez intense. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus sur la propagande dans les médias et au cinéma. Mm-hmm. Et en tout cas, c'est assez. Tout était assez patriotique dans cette époque-là. Le film Casablanca, 1942, est un classique de Warner Bros. Propagande anti-nazie et triangle amoureux, c'est une histoire d'espionnage et de romance dans le nord de l'Afrique, un conflit entre la démocratie, valorisée évidemment par les États-Unis, et le totalitarisme et le fascisme. Durant la guerre, on a droit à un certain nombre de films avec l'acteur John Wayne, surtout connu pour avoir joué dans des westerns. Les films de la Deuxième Guerre mondiale se multiplient durant les années 50 et les mœurs ont beaucoup évolué à partir des années 60, ce qui a donné plus de satire et de comédie de guerre, ce qui est quand même intéressant, ça allège le ton. Et je m'arrête pas mal ici pour ce qui est de l'historique, mais je veux rapidement faire quelques mentions pour des guerres suivantes, donc les guerres subséquentes. Docteur Folamour, 1964 de Stanley Kubrick, une comédie sur la guerre froide avec Peter Sellers, c'est très drôle et intéressant à voir. MASH, 1970, une comédie noire sur la guerre de Corée. Et Apocalypse Now, de 1979, de Francis Ford Coppola sur la guerre du Vietnam. Et en terminant, pour bien définir ce genre de film de guerre tel qu'on le voit aujourd'hui, il faut juste se dire que c'est un genre qui est parfois historique, mais pas toujours, qui montre généralement un environnement militaire ou d'espionnage en temps de guerre, de conflits armés, de prisonniers, de survie, et on y voit parfois certains éléments évidemment politiques, des procès de cour martiale, et le film de guerre a généralement une ou un ou plusieurs protagonistes qu'on qualifiera de courageux, avec un grand sens de l'honneur, et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ce genre vient d'une relation étroite avec la propagande, et on peut constater encore aujourd'hui, les films de guerre ont tendance à être extrêmement patriotiques. Bon film de guerre.
C'est le moment du top 3.
C'est le moment du top 3. On vous présente chacun à tour de rôle notre top 3 des films de guerre. Et on va commencer par Monsieur Laramée Louis.
Et hey, puis là, on a comme pas défini c'était quoi la période des films de guerre. Parce que tu sais, l'armistice à la base, c'est pour honorer les soldats.
La Première Guerre mondiale.
On l'a ensuite adapté pour la deuxième. Moi, j'ai je vais les sortir en ordre qui sont sortis parce que j'ai vraiment eu de la misère à les ordonner en termes de celui que j'ai préféré.
Ben, je comprends.
C'est des films que j'ai vus plusieurs reprises, les trois. et qui parle de... Bon, il y en a deux qui parlent de la guerre du Vietnam, puis il y en a un qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier, le plus vieux, c'est Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, oui, qui est un extraordinaire film qui est justement une allégorie de l'homme versus l'inconnu, versus l'incroyable, où est-ce qu'il utilise le processus de ses personnages au travers la drogue, au travers la jungle infestée, pour finalement découvrir la vraie nature de l'homme. On a également Full Metal Jacket, Kubrick, 1987 cette fois. Encore une fois, guerre du Vietnam, encore une fois une allégorie. Cette fois-ci, c'est plus sur la folie de l'homme. On explore à travers le personnage de Joker qu'est-ce que c'est que la dichotomie entre vouloir la guerre pendant qu'on fait la... vouloir la paix pendant qu'on fait la guerre. Également avec la scène vraiment difficile de la première demi-heure dans le camp d'entraînement. C'était vraiment un film qui m'a marqué. J'ai écouté à plusieurs reprises. D'ailleurs, ça m'a pris 9 fois. Pour être capable de dépasser la première demi-heure avec la fin du moment dans le camp d'entraînement.
Parce que c'était trop dur à voir.
Oui, parce que ça finissait. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, Divulgacheur, c'est un film qui est sorti en 87, un moment donné.
Toute la marche.
Là, moi, c'est ça, un moment donné. Là. À la fin de la scène d'entraînement, de la séquence d'entraînement pendant les 30 minutes où ils sont dans le camp, un des soldats se suicide dans la salle de bain. Puis ça finit là-dessus. Et tout de suite après, on coupe à une scène super légère de Joker au Vietnam, gros soleil, prend ça relax avec un de ses collègues à ce moment-là. Puis cette espèce de contraste-là était trop grand pour moi. Puis je faisais juste arrêter, puis ça m'a pris 9 fois. À l'époque, je louais mes films au Superclub Vidéotron.
T'as payé 9 fois?
10, parce que c'est seulement la 10e fois que j'étais capable de me rendre après ça.
T'as peut-être dû l'acheter parce que là, tu commences à être proche du prix de la cassette VHS. Là.
Oui, mais à l'époque, j'avais 15 ans aussi, c'était plus compliqué.
À l'époque, les clubs vidéo aussi survivaient.
Oui, c'est ça, à l'époque, le Superclub Vidéotron existait.
Il y avait plus de facilité à survivre, effectivement.
Et le plus récent, qui est quand même 1998, cette fois-ci, c'est Steven Spielberg avec l'incroyable Sauver le soldat Ryan. Moins une allégorie, plus un miracle technique, en sens que ce soit la bande sonore, les images, la photographie, l'histoire, c'est vraiment juste un chef-d'œuvre.
C'est un tout, hein, c'est ça.
C'est ça. Puis en plus, on a certains acteurs favoris, dont Vin Diesel, Matt Damon, ainsi que Charlie Sheen. Fait que c'était ça. Ce serait ça, mon top 3.
Et ton top des 3, ça serait lequel?
Ah, c'est vraiment dur. Je pense qu'il faut mettre en jacket. Vraiment, oui, mais en partage, je suis un fan fini de Kubrick. Ouais. Fait que ça, plus le fait que c'est vraiment un film que j'ai vu très souvent, plus le fait que j'aime vraiment le personnage principal, je me sens une affinité pour Joker.
Excellent. Et Mélina, quel est ton top 3 des films de guerre?
Moi, c'est comme je l'ai dit tantôt, j'écoute pas vraiment de films de guerre, donc c'était vraiment difficile pour moi à faire, mais j'ai quand même réussi à sortir 2 films plus une scène. Donc, on va y aller avec le premier film que j'ai beaucoup aimé, en fait. Ça s'appelle « Le jeu de l'imitation » de Imitation Game. Et, la définition de film de guerre, est quand même, je l'ai pris au sens large. On va se le dire en partant.
Oui, mais ça se passe en temps de guerre.
Puis pour Benedict Cumberbatch, on est capable de faire des exceptions.
Exactement.
Ouais, c'est un très bon film.
C'est un très bon film. En fait, c'est sur l'histoire de Alan Turing, qui est un cryptanalyste et un mathématicien, qui a décrypté Enigma, qui était... utilisé par les nazis, donc
machine là qui encodait là, autrement dit.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Exactement. C'est une adaptation en fait d'un livre de la biographie là de ce cher monsieur Turing qui aurait sauvé on calcule 14 millions de vies et courté la guerre de 2 ans. Donc je suis pas une fan de guerre, donc je trouve ça très bien. Mais c'est aussi un très bon film.
Si je peux me permettre également Alan Turing qui a été condamné et envoyé en prison pour son homosexualité.
Il y a une fin assez terrible
qui a été pardonné seulement récemment par le gouvernement britannique.
Mais ça c'est effectivement, c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon film, puis je pense que ça vaut la peine de le revoir même en 7 journées. C'est un film que je re-regarderais, surtout avec la très talentueuse Keira Knightley. Donc, c'était ça mon numéro 1 et mon numéro 2. Là, j'ai pris le sens du mot film de guerre au sens encore plus large et je vous ai sorti un film que j'ai beaucoup aimé qui a été réalisé en 2004. Et Louis me regarde avec des yeux distants, donc je vais faire durer le plaisir. Alors, je vous vous dirais que c'est inspiré de guerre, on pourrait dire, de la mythologie grecque et que ça l'a donné que ça l'a donné lieu même à un type de virus sur Internet, une expression qui est maintenant courante. Et oui, je parle bien de Troie, le film.
Avec Brad Pitt.
Avec Brad Pitt et Orlando Bloom.
Ben, c'est une...
C'était pas bon! C'était pas vraiment...
C'est une mythologique. On n'a pas dit qu'il fallait que ça soit historique. Bon, c'est peut-être vrai, la guerre de Troie, on sait pas.
C'est peut-être vrai. Puis ça reste que c'est quand même une partie de notre quotidien, parce que souvent, l'expression « un cheval de Troie »,
on va l'utiliser.
Là, tu essaies de moderniser Homère, là.
Non, ça, c'est... Tu vois, je vais me taire sur le choix, mais t'as pas le droit d'utiliser l'expression « cheval de Troie », qui est tiré du livre, qui a plus de 2000 ans.
Et encore, c'est pas vraiment dans le livre. Donc, ouais.
Oui, mais je vous l'ai dit, je l'ai pris au sens large parce que j'en écoute pas de films de guerre.
Ben ouais, mais là, il y a large, puis il y a comme la grange au complet. Puis la scène que tu me disais que t'aimais aussi, c'était quoi?
La scène que je vous disais que j'aimais, alors voilà, c'est selon moi l'une des plus belles guerres de l'histoire fictive de ce monde. Et oui, je parle bien de Harry Potter 7, la guerre à la fin entre Voldemort et son armée et Harry Potter et sa gang.
Ah, ça, là, je n'étais pas au courant de celui-là.
Puis une très belle scène cinématographique. Physiquement parlant, ça pète de partout, il y a des éclairs, c'est beau, c'est bien fait, c'est touchant, c'est... ça brise notre cœur, voilà. Alors avant que Louis m'assassine du regard, je passe la parole à Chuck.
Non, mais ça répète la guerre des Tucs.
Mais c'est exactement là que je m'en allais.
Mais c'est pas une raison pour se faire mal.
Voilà.
Donc c'est ça. Merci, Mélina. De mon côté, moi, je suis personnellement vendu au film qui traite de la Deuxième Guerre mondiale. J'en ai peut-être un peu trop vu pour avoir une facilité de choisir. Alors, j'ai été relativement récent dans mes choix. Une exception près, The Longest Day, Le jour le plus long de 1962. Donc, effectivement, je compense pour les autres qui sont plus récents.
Ben oui.
John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Richard Burton et Sean Connery et beaucoup d'autres dans ce film... qui est en fait constitué d'une suite d'événements qui précèdent, qui se passent pendant et suivant le débarquement de Normandie. On suit différentes équipes alliées et allemandes et on voit leur interaction. C'est à la fois complet, assez fidèle à la réalité et en même temps, il y a une touche d'humour cynique et absurde qui rend le film extrêmement accessible. Je dirais, en deuxième position, s'il y a quelque chose, ce serait Le fils de Saul. Saul Auslander, je ne suis pas très bon en juif, fait partie d'un groupe de prisonniers juifs qui sont forcés d'exécuter leurs semblables dans un camp d'extermination d'Auschwitz durant la Deuxième Guerre mondiale. Il se prend d'affection pour un jeune garçon décédé et tente par tous les moyens de trouver un rabbin pour le bénir et sauver son âme. Imaginez que le film est tourné entièrement avec un gros plan à peu près environ une... 30 cm du visage de Saul. Ça le suit toujours, il est toujours en mouvement, donc on voit à peu près rien autour de lui, à part des brides, et sinon on voit ses réactions, mais on entend énormément de choses, on entend les gens mourir, on entend les gens mettre le gaz et tout ça. Et
ça semble heureux comme film.
C'est extrêmement intense, et c'est encore plus intense parce qu'on est dans le Bressonien, dans le sens où la plupart des choses les plus horribles, on ne les voit pas se produire, mm-hmm. on les entend, mais on voit la personne les voir se produire, parfois avec un regard un peu vide et un peu neutre. C'est rough comme film. Je l'ai vu au cinéma il y a quelques années, en fait l'année dernière, et c'est franchement un excellent film.
On n'en sort pas indemne.
Non, on en sort, je dirais pas changé, mais en tout cas, ça nous laisse pas indifférents. Je dirais rapidement, comme troisième position, le récent film Dunkirk, qui raconte l'évacuation des troupes alliées à Dunkerque en mai 1940 dans le nord de la France. Et pas la peine d'aller plus loin à ce niveau-là, c'est un film suffisamment récent pour que...
Félicitations, Jim, t'as réussi à avoir le film le plus ancien et le plus récent du top 3.
Mais merci. Et juste une mention spéciale, parce que je m'en voudrais de ne pas le dire, une mention spéciale à la comédie Stripes avec Bill Murray qu'on a vu ensemble, John Candy et Harold Ramis. Si vous voulez rire, avoir du fun, regardez ça, c'est sur Netflix. C'est extrêmement drôle. C'est le moment de parler des sorties cinéma. Louis, parle-nous de ça.
Avant, j'aimerais faire un message d'intérêt public.
Ah, tu fais toujours des messages. Oui.
Non, c'est vrai. C'est faux. Mais Canaries maintenant fait des motos custom avec un de ses chums.
Quoi?
De moto. Oh, oui.
C'est vrai ou c'est un film?
Non, c'est vrai. Il y a un endroit en Californie où tu peux acheter des motos faites custom par Canaries.
Est-ce que c'est les mêmes motos que dans The Matrix?
Oh non. Ah. Pour avoir vu le documentaire de Wired là-dessus, c'est vraiment les ARC, qui est le nom de la compagnie, ils sont vraiment juste de toute beauté. Si c'était pas du fait que le prix était 78 000 US en commençant et que je fais pas de moto, j'aurais peut-être considéré.
Oui, mais il y a plusieurs éléments là-dedans qui font que c'est, ben pas
c'est
le bon
ça.
Choix.
C'est pour bien des bonnes raisons.
Donc, les sorties cinéma, Louis.
C'est sorti cinéma cette semaine. On a deux films avec Marine Johnson, qui est une jeune actrice québécoise. Elle est dans Il est où le paradis, qui est un film québécois, la mort de leur mère, un frère et une sœur qui vit avec une déficience intellectuelle, se sauve en plein hiver. Il tente de trouver Machi Manitou, dieu de la chasse et de la pêche, où Émilie est convaincue que leur mère s'en est allée. Ça a l'air tout cute, j'ai vu la bande-annonce. C'est comme pas clair dans la phrase, là, mais c'est juste elle qui a une déficience intellectuelle et c'est elle qui est jouée par Marine Johnson. Ça a l'air tout cute, ça a l'air plein de belles émotions. On a également la petite fille qui aimait trop les allumettes, basée sur le roman de Gaétan Soucy. Également québécois, dirigé par Simon Lavoie, qu'on a connu dans Ceux qui font les révolutions à moitié, ne font que se creuser un tombeau. Élevés seuls par leur père dans l'obscurantisme et le mensonge, deux ados sans nom vivent reclus dans un manoir décrépit à la campagne. Un matin, quand ils trouvent l'homme pendu dans sa chambre, ils sont brusquement livrés à eux-mêmes. Encore une fois, Marine Johnson dans Un des enfants et une couple d'autres personnes que je connaissais pas le nom. Mais qui a l'air vraiment bon. Pour avoir vu l'abondance aussi, ça a l'air trash, mais ça a l'air vraiment intéressant. On a également Merveilleux, la version française de Wonder, qui est également basée sur un roman. C'est l'histoire d'Auguste Palman, un garçon né avec une malformation du visage qui l'empêchait jusqu'à présent d'aller à l'école. Aujourd'hui, il entre en cinquième année. C'est dirigé par Stéphane Chomsky, le même type qui a fait Le Monde de Charlie, The Perks of Being a Wallflower. Et c'est avec Julia Roberts et Owen Wilson. Mais là, moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin pour moi, parce que cette semaine, nous avons La Ligue des Justiciers, version française de Justice League.
Donc, ça arrive juste une semaine après Marvel. Hein?
C'est intéressant. Bizarre, écoute.
C'est mystérieux. Quel drôle de choix.
Mais, j'avais la petite description là, fournie par la maison de production, mais on s'en fout. C'est Zack Snyder qui dirige, qui a dû quitter en cours de production, remplacé par Josh Whedon. J'ai donc le poil excité en ce moment pour ce film-là. Jason Momoa, le magnifique Khal Drogo, Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, qui sont tous réunis dans cette aventure extraordinaire où Batman crée la Ligue des Justiciers inspiré par Superman à le faire. Il sauve le monde, comme de fait. Ça va être beau, ça va être over the top, ça va être sombre. J'ai hâte d'aller le voir.
C'est tout?
C'était ça pour cette semaine.
Merveilleux. En Blu-ray DVD, si pour X raison vous aviez mieux à faire la semaine passée, vous avez peut-être manqué la sortie DVD Blu-ray du film Patty Cake avec un signe de pièce à la fin. Une rappeuse, Killa P, travaille dans un bar pour payer ses médicaments de sa mère et elle rêve de gloire et d'argent, mais aucun producteur ne veut l'aider et ça m'étonne. Sinon, pour cette semaine, la suite du premier film Opération Noisette, Opération Noisette 2, c'est un film d'animation mettant en vedette, entre autres, des écureuils, animal favori de Louis, ainsi que d'autres rongeurs et un horrible pog. Finalement, Amityville, Le Réveil, un film d'horreur américain, une jeune journaliste trouve une vidéo tournée dans la maison de l'horreur et décide d'y faire une expédition avec d'autres paranormaux. Un autre film plein de réalisme qui sera plaire à son public cible, m'excluant. Bon.
Merci beaucoup tout le monde, c'est la fin de notre épisode de Cinébrunch. Si jamais vous voulez nous écouter ou nous réécouter en balado-diffusion sur iTunes, Google Play Music ainsi que sur RZO, nous sommes également disponibles en tout temps sur cinébrunch.com. N'hésitez pas à venir liker notre page Facebook, facebook.com/cinébrunch. Merci beaucoup!
On se retrouve donc dans une semaine à 11h pour une autre édition de Cinébrunch. Et si l'automne ou le changement d'heure a été dur pour vous la semaine dernière, on aura peut-être des solutions pour vous la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!
Bye bye tout le monde!